Chapitre 2. L'orchestre, érigé sur une scène, au fond du hall fleuri d'arbustes illuminés, attaquait le finale de la symphonie en si mineur de Borodine. Bien avant minuit, la morne résignation des concerts mondains se marquait au visage congestionné, aux yeux fripés des femmes parquées côte à côte sur les premiers rangs de chaises, avec des attitudes d'attention et d'admiration contraintes. Elle s'avouait ingénument dans les poses vaincues des habits noirs à côté aux chambranles des portes ou errant silencieusement de corridor en corridor. Quelques invités pourtant, des groupes de fumeurs indépendants, des couples de flirts insoucieux des critiques, s'étaient réfugiés dans les salons, dans les chambres toutes grandes ouvertes où l'on pouvait trouver encore, avec une lumière moins aveuglante, un peu d'air et de fraîcheur. Sur le canapé du petit salon, qui d'ordinaire servait de boudoir à Maud de Rouvre, où elle avait sa bibliothèque personnelle, son piano et son bureau d'acajou anglais, Luc Lestrange, seul, à demi-couché, la main droite tourmentant fréquemment la pointe de sa barbe pâle, semblait attendre quelqu'un, en éveil au moindre bruit de pas, qui s'approchait de la baie, ouverte sur le grand salon. « Enfin, c'est vous !» s'écria-t-il en voyant apparaître Jacqueline de Rouvre. « Je désespérais !» Vous êtes à manger de baisers ce soir, ajouta-t-il en parcourant du regard la jeune fille qui, mystérieuse, mirieuse, levait du bout des doigts les côtés de sa robe de tulle blanc comme une danseuse de menuet et lui faisait une révérence. Il s'assura du regard qu'ils étaient bien seuls. Jetant son bras autour de la taille de Jacqueline, il tenta d'effleurer la nuque sous les boucles rousses, mais plus vite encore, elle glissa de ses bras et, presque comme une bergeronnette, s'esquiva derrière le piano. Debout, un pied sur la pédale d'étouffement, elle caressa le clavier d'un arpège, si adroitement penché que son corsage, à peine échancré, sembla lui déshabiller la poitrine. « Jacqueline !» murmura Lestrange. « Il n'y a pas de Jacqueline qui tienne, cher monsieur !» répliqua-t-elle en s'asseyant sur le tabouret du piano, prête à esquiver une autre attaque. « On ne m'embrasse plus ni le cou, ni la joue, ni les bras, ni rien. C'est mon premier soir en robe longue. Je suis une dame. » Et pour bien établir sans doute que sa robe était une robe longue, elle croisa les jambes d'un geste vif qui découvrit tout son mollet droit. Lestrange, debout devant elle, se mordait les lèvres. « Si, pourtant, fit-elle, on m'embrasse la main. » Elle arracha le gant gauche d'un seul coup. Le bras apparut subitement, nu, tendu aux lèvres de Lestrange. Il les posa sur la pointe des doigts d'abord, puis, lentement et goulûment, il piqua de baisers le poignet, l'avant-bras, gagnant vers le coude. Jacqueline, les yeux à demi fermés, la bouche entr'ouverte, ne bougeait pas ce bras tendu qu'elle déroba soudain quand la moustache fauve touchait la saignée. « Assez pour aujourd'hui, fit-elle. Asseyez-vous là et causons gentiment. » Elle montrait le canapé. Lestrange obéit. « Comme votre figure est drôle ce soir. Qu'est-ce que vous avez? Vous me faites les yeux que Chantelle fait à ma sœur. » Lestrange affecta de rire, mais sa voix se troublait. « J'ai que vous vous moquez de moi, comme de tout le monde du reste. Et je vous assure que j'en souffre. De vous à moi, ça peut vous paraître absurde. Pourtant, c'est vrai, je me prépare encore une nuit horrible. »« Bah !» répliqua Jacqueline en jouant avec son éventail. « Vous devez bien connaître quelques gentils amis chez qui vous pourrez passer une nuit d'insomnie, amusante, plus amusante que notre petite fête toujours. »« Des cocottes ?»« Des cocottes, des actrices, des dames pour messieurs seuls, enfin. Est-ce que je sais, moi ? Vous ne voudriez pas que je vous donne des adresses, pourtant ?»« S'il n'y a que des actrices ou des filles pour me distraire de vous, » répliqua Lestrange sérieusement. « Eh bien, mais les femmes du monde, alors ? La petite madame Duclerc, justement, se frottait à vous tout à l'heure avec une grâce. J'ai vu cela, moi. Je vois tout. Vous lui avez demandé une fleur. La voilà, votre boutonnière. » « Sa fleur, ce que je m'en moque. » Il l'arracha, la jeta par terre. « Une femme qui a eu trois enfants, merci. Ça ne me tente pas. » Jacqueline ramassa la fleur et la déchiqueta. « Voilà ce que c'est que les mauvaises habitudes, dit-elle. On prend goût aux jeunes filles, aux fruits un peu verts. On ne peut plus s'accommoder des jolis fruits mûrs. » Un couple apparaissait sur le seuil. une femme au visage virginal encadré de bandeaux, donnant le bras à un très jeune homme chevelu, de taille médiocre. Dès qu'ils virent le salon occupé, ils battirent en retraite. « Tenez, fit Jacqueline, la voilà, cette pauvre petite Duclerc. Henri Espien, la console de vos dédains. » « Le romancier, c'est un joli raseur. Il peut la garder si elle le supporte. » Ils se turent. L'orchestre, dans l'éloignement, après quelques instants de silence, attaquait le finale de la symphonie. « Au fond, dit Jacqueline, si j'étais un homme, j'aurais votre goût. Les mères d'une nombreuse famille, non, décidément, ça ne me comblerait pas de joie. J'en vois quelques-unes à la douche, chez le docteur Cross, de celles qui sont ici ce soir, si pimpantes, si bien attifées, et je me figure la tête du séducteur quand ses trésors se dévoilent. Brrr ! Ce n'est pas la dame qui doit recevoir la douche, alors. Tandis qu'une jeune personne de 17 ans, toute neuve, comme Madeleine de Reversier, par exemple... « Ne me parlez donc pas des autres, interrompit l'estrange. C'est vous seul que je veux, vous le savez bien. Je crois que vous me voulez en effet, mais vous voulez également toutes les femmes qui passent à votre portée, mettons toutes les jeunes filles. Jusqu'à cette pauvre Jeanne de Chantelle, si plate, si fagotée, dont vous regardiez les salières avec des yeux brillants. Ne dites pas non, c'est une petite maladie, une névrosette, comme dit mon cher docteur Cross. Je ne vous la reproche pas et je ne suis pas jalouse. Allez !» Elle s'amusait, entre ses phrases, à piquer de baisers la fleur à demi dépouillée qu'elle roulait entre ses doigts. L'estrange murmura. « C'est vrai, mais je vous veux par-dessus tout. » Sous le regard ironique de Jacqueline, il n'osa pas, cette fois encore, dire « Je vous aime ». Elle, toujours tenant la fleur près de ses lèvres, demanda « C'est sérieux, alors ? » ?»« Tout à fait sérieux. » »« Eh bien, si c'est sérieux, répliqua-t-elle tranquillement, épousez-moi. Ah, vous voyez, vous commencez à faire une tête. » Mais si, je vous assure, vous faites une tête. Qu'est-ce que vous espériez donc, mon pauvre Luc, voyons, que j'allais jouer les Madeleines de Reversier, les Juliette Avrezac ou d'autres encore que vous savez ? Payer le silence des femmes de chambre, courir les garçonnières, comme une honnête épouse. Non, non, mon cher, je suis aux premières loges pour savoir ce qu'il en coûte. On passe l'âge de noces sans même avoir eu pour se distraire une vraie aventure et on risque un tas d'ennuis. Pas de ça, je veux qu'on m'épouse. Suis-je donc un si mauvais parti? Je suis de bonne naissance, j'ai 200 000 francs de dot qui ne doivent rien à personne. Ce n'est pas le Pérou, mais par le temps qui court, c'est encore un bibelot d'une jolie rareté. Un peu esservelé peut-être. Bah, ça ne compte pas à cause de mon âge et je saurai me tenir une fois mariée. Quant à être intacte, mon cher, vous pourrez en chercher une dans tout Paris, même à Orléans, vous n'en trouverez pas de plus Jeanne d'Arc que votre servante. Même la petite Chantelle, malgré ses salières, je lui rendrai des points. « Dame, je sais bien qu'on ne fabrique pas les enfants en ramant des choux, je ne suis pas une petite oie blanche, comme dit l'ami Hector. Mais mon mari n'en aura pas moins la satisfaction d'inaugurer toute la ligne. » Elle se leva, refit un arpège sur le piano et ajouta, comme pour elle-même, « Et j'ai idée que l'inauguration en vaudra la peine. » Là-bas, la symphonie expirait en de lents accords décroissants. On applaudit. Un remous de foule piétina vers les salons. Luc Lestrange regardait Jacqueline et ne répondait pas. « Voilà, mon bel ami, conclut-elle. Réfléchissez, décidez-vous. Le mariage, ou bien vous n'aurez jamais de moi autre chose que ceci. » Et lui jetant à la figure le cadavre de la rose blanche touchée par ses lèvres, elle s'esquiva lestement. Lestrange, qui voulut la suivre, eut son chemin barré par les couples qui refluaient du hall. Il la vit, de loin, s'accrocher au bras du docteur Cross, un chauve de 40 ans, au visage de tsar, promenant son tranquille regard vitré d'un lorgnon sur cette assemblée de détraqués dont le détraquage le faisait vivre. À l'entrée du hall, Lestrange se heurta à Paul Tessier, qui causait avec Étiennette du Roi, debout l'un et l'autre, le sénateur couvant d'un regard plus que paternel l'adorable décolletage de la jeune fille. Les deux hommes se serrèrent la main. Lestrange demanda « Est-ce votre tour, mademoiselle? N'allez-vous pas arrêter enfin ces déluges d'harmonie savante en nous chantant quelque chose de simple ? Tout tremblant encore de son entretien avec Jacqueline, il s'aiguisait le regard aux prunelles bleues d'Étiennette. « Non, fit-elle en souriant, ce n'est pas encore mon tour. Madame Houtchel y va chanter et j'en suis bien aise. »« Elle a un trac affreux, dit Paul, et elle a tort car elle aura beaucoup de succès. » « Oh, vous !» observa le peintre Valbel, qui s'était joint à leur groupe. « Mon cher sénateur, vous êtes aussi troublé qu'elle, ce que vous êtes mari de la débutante ce soir. » Étiennette rougit. Le tessier, mécontent, ne répliqua pas, mais il offrit son bras à la jeune fille et l'emmena. « Vous les avez froissés, dit l'estrange au peintre. Pourquoi avez-vous dit cela? Très sérieux, vous savez, elle et lui. On parle d'un mariage. » « Voilà ce qui m'agace, répondit Valbel. De quel droit ce gros homme politique se mêle-t-il de confisquer cette jolie fille? Elle était faite pour nous, pour les soupers et pour le couchage, comme la bonne Mathilde, sa mère, et la jolie Suzon, sa sœur. On en veut faire une bourgeoise honnête, fidèle à son gros bêta de sénateur. Tant pis, je siffle. » « Le fait est, dit l'estrange rêveur, qu'elle est ravissante ce soir, dans sa robe indiana, avec ses manches à gigot, son chignon pointu et ses anglaises. Elle doit avoir le corps le plus délicieux. » Ils se prirent à détailler la jeune fille, à la déshabiller avec des mots de jockey, des pronostics sur l'inconnu de cette virginité tentante. Ils ne baissaient même pas la voix, et les gens qui passaient, repassaient par l'entrée du hall, cueillaient au vol les bribes de leur entretien. Puis ils parlèrent d'autre chose, de la fête, de la musique. Dire que voilà ce qu'on peut faire de mieux, à peu près, en matière de divertissement mondain. Depuis 15 jours, les échos des journaux nous parlent du fameux hall, du vrai théâtre, de la gracieuse maîtresse de maison. Je trouve que cela ressemble à une soirée du Continental. Et vous ? Bah, répliqua l'estrange, il n'y a plus de jolies fêtes. Nous sommes trop laids et tout est trop vu. La gracieuse maîtresse de maison, seule, n'est pas surfaite. Regardez-la. Maud, arrêtée au bras de Maxime de Chantel, conversait avec le couple inséparable de Madame Houtchel et de Cécile Ambre. Cécile, en robe plate, en corsage presque montant, les cheveux noués bas comme une perruque Louis XVI, adolescente indécise et inquiétante, l'Italienne, vêtue à l'Empire, une épaule et la moitié du buste à nu. Maxime, en un habit neuf coupé par vase, mais marqué tout de même de sa province, à tel défaut de recherche dans le linge ou la chaussure, pâle, aminci encore par la consomption de sa solitude, ne voyait, n'entendait que l'adorable créature dont la main pesait sur son bras, et la joie de la conquête, maintenant assurée, transparaissait sur ce visage inhabile, insoucieux à masquer les sentiments de l'âme. Maud, l'air ailleurs, distrait de tout, ses yeux bleus noircis, comme les faisaient, tout grave tourment de son âme vigoureuse, parlait, écoutait parler, et, si indifférente aujourd'hui par l'obsession de ses pensées à l'effet de sa beauté, elle apparaissait malgré tout la reine de cette foule, d'une autre race, plus haute, plus noble, faite pour la maîtriser, la brider et la chevaucher. De la pointe du pied posée un peu en avant, jusqu'au sommet du front casqué de cheveux châtains sombres, tout moiré de roux, la ligne de sa silhouette s'esquissait avec une grâce envolée, cette gloire de la forme féminine parfaite pour laquelle la vraie élégance des vêtements est de la suivre au plus près. Elle le savait, consciente de sa perfection. Le crêpe glauque de sa robe s'enroulait autour de son corps, comme une algue amoureuse, autour d'une blanche sirène émergeant des flots. Et la nudité absolue du col et des bras, sans un fil, sans un bijou, était chaste à force d'éclat. « Oui, murmura l'estrange, elle est bien belle. » Il se tut. Il évoquait, un des souvenirs les plus poignants de son passé trouble, la minute de folie, restée le secret de Maud et le sien, où il avait voulu goûter à ses lèvres, lui aussi, à ses lèvres de Diane irritée. La mémoire mystérieuse des sens le fit tressaillir, comme si son poignet saignait encore sous la morsure exaspérée qui lui avait fait lâcher prise. « La Houtchel y va chanter, dit le peintre. Approchons-nous, cela en vaut la peine. » Déjà, les femmes reprenaient leur place aux premiers accords plaqués par les doigts virils de Cécile Ambre. L'Italienne, debout à côté du piano, face au public, semblait une énorme statue de chair, indécente par sa monstrueuse et molle blancheur. Elle chanta un fougueux poème de Holmès, une invocation à Eros, maître du monde, et soudain, cette masse de chair s'anima, la flamme de l'art la transfigura. Ce furent d'autres yeux, d'autres lèvres, d'autres gestes, ce fut la prêtresse d'amour, saoule d'encens, brûlée de parfums, tendant vers le dieu des douloureuses délices ses lèvres sèches de la soif des baisers, ses bras tordus par l'anxiété des étreintes. La voix pure et déchirante comme celle de certains violons antiques, la voix avait une âme de passion et de spasme, et les clameurs étaient aussi des baisers, des caresses, des soupirs de désir ou d'assouvissement. Ces stances d'Holmès, tous les spectateurs les avaient maintes fois entendues, et voici qu'elles frappaient les oreilles comme une musique nouvelle, inquiétant la bête sensuelle accroupie au fond des cœurs, faisant rougir les jeunes filles, pâmer les femmes, incendiant les yeux des hommes. Elle lança l'appel suprême « Eros, ouvre-moi les cieux !» dans un cri si poignant, si haletant, si effroyablement passionné, que l'auditoire entier frémit et que des voix inconscientes répondirent du creux des gorges convulsées. Puis elle tomba, brisée elle-même, dans les bras de Cécile Ambre et des musiciens accourus pour la soutenir. « Cette femme, prononça-t-on derrière l'estrange, chante avec son sexe. » C'était Hector Le Tessier. « Avez-vous remarqué, observa Valbel, que tout le temps qu'elle chantait, elle a regardé la même personne ?» L'estrange et Le Tessier se tournèrent du côté où, effectivement, les yeux de la chanteuse étaient demeurés comme rivés. Ils virent au fond du hall, debout contre la muraille, Julien de Subersault, beau comme les héros de Balzac, vêtu comme eux, impassible, muet et triste. Assise près de lui, presque à ses pieds, la jolie Juliette Avrezac, levée sur lui des regards d'épouse, isolée de sa mère et des autres femmes, s'offrant à lui de ses prunelles attendries, de son mélancolique sourire d'amoureuse, de la nudité délicate de ses épaules et de ses bras. « C'est une force d'être beau comme cela, tout de même, » murmura Hector. « S'il y avait une âme d'homme sous cette beauté, le monde serait à lui. » À ce moment, Jacqueline de Rouvre, au bras du docteur Cros, frôlait le groupe des trois hommes. Non sans jeter à l'estrange un regard d'ironie, elle fit signe à Hector de s'approcher. « Penchez-vous, monsieur, vous êtes trop haut pour mes confidences !» Et les lèvres à l'oreille du jeune homme. « Eros ayant définitivement terrassé Madame Uccelli, c'est votre petite belle-sœur qui va chanter. Elle a une peur terrible. Ne quittez pas ce coin afin d'y chauffer l'enthousiasme, hein ?» Maxime de Chantel défend l'aile gauche sous les ordres de Maud. Il est prêt à assommer, quiconque n'applaudira pas. « Comptez sur moi, » répondit Hector. D'un de ces gestes en silhouette que les peintres enseignent aux mondains, il dessina en l'air le contour du décolletage de la jeune fille. « Très bien, » fit-il en souriant, « très en forme. Jamais je n'aurais cru aussi... » « Enfin, très bien. »« Malhonnête, » répliqua Jacqueline. « Et encore, c'est ce que j'ai de plus maigre, mon cher. Demandez au docteur. » Mademoiselle Jacqueline de Rouvre est la cliente des miennes qui me... m'émeuvent le plus, répliqua l'Américain dans le flegme de sa jeune barbe grise. « Hein, voyez-vous, l'amour du docteur, et dire qu'il nous dit à toutes la même chose. » Elle s'éloigna d'un bond de gamine, lâchant Cros. Le médecin, habitué à de telles façons, demeura où on le laissait et, serrant la main d'Hector, lui demanda sans transition des renseignements touchant une crise ministérielle qui menaçait. Mais sur l'estrade, Étiennette Duroy s'avançait au bras du célèbre pianiste Spitzer. Ni Hector ni Maxime n'eurent à entraîner le public. On l'applaudit tout de suite, avant même qu'elle eût chanté, tant elle apparut jolie sous sa robe à volants et à crinoline, avec les manches bouffantes de son corsage échancré et sa mignonne figure rude et fine, encadrée par le chignon peint de sucre et les papillotes. Toute rose des mois, elle accorda sa guitare aux accords de Spitzer. Puis, parmi le silence amical de l'assistance, elle commença à chanter. Sa voix, d'abord un peu incertaine, étouffée de peur, s'assura vite, mince et solide, la voix du cristal que frôle un archer de cheveux. Elle chantait des romances qu'accompagnaient à merveille les sons chevrotants de la guitare et les notes du piano, habilement assourdies par les doigts de Spitzer, romances délicieuses et surannées, toute une époque évoquée, le temps d'Amy Robsart et de Jane Eyre, le temps des pianos carrés, des jeunes hommes en bottes suivis de leurs tigres, des chaises de poste, des émirs, le temps des orientales et l'enfant du miracle. Magie des résonances. À tous ces blasés, à tous ces brûlés de Paris, elle donnait un instant l'âme vive et puérile, enthousiaste et artiste d'un Français de 1830 à 1840. Peu à peu, le délire gagna toute la salle, on acclama Étiennette, les femmes lui lancèrent des fleurs, et quand elle descendit de l'estrade, on se la disputa pour l'embrasser. Paul de Tessier l'attendait dans la chambre de Jacqueline, qui servait de loge aux femmes. Elle se jeta gentiment dans les bras qu'il lui tendait. Il la baisa sur les deux joues. « Vous êtes content ?»« Oh, ma chérie, vous êtes une grande artiste, mais, je l'espère, cette grande artiste ne sera pas pour le public. » Ils échangèrent un regard où se scellait l'accord de leur avenir. « Vous êtes bon, dit la jeune fille, vous m'aimez gentiment comme il faut m'aimer. Je me sens si seule, et c'était si effrayant de chanter ici, devant tout ce monde, avec l'inquiétude de maman que j'ai laissée bien souffrante. Maintenant, allez-vous-en, vous me compromettez, on vient. » Madame de Rouvre, presque jolie dans une robe de velours noir à paillettes claires de lune, Maude, Madame Uccelli, les reversiers, accouraient féliciter la jeune fille. Paul s'esquiva. Rentré dans le hall, il y rencontra Julien de Subersault, qui s'y promenait presque seul. Paul était à une de ces minutes où la joie personnelle surabondante fait aimer la vie et tous les hommes. Il serra avec une sorte d'effusion la main de Julien, tout de suite refroidie par le regard sec du jeune homme. Puis, comme il gagnait le buffet, il surprit ce bout de dialogue entre le romancier Espien et Valbel, qu'entouraient des gens du monde administratif. « Vous savez le mot de la petite du roi, son protecteur Le Tessier, en sortant de scène tout à l'heure ?»« Non. Oh, mon ami, je voudrais que ma mère fût là, elle qui n'est fière que de ma sœur Suzanne. » La galerie d'écouteurs rit aux éclats. « Cette bonne Mathilde, cette bonne Suzon !» Paul passa, chatouillé par l'envie de tomber sur ces niais méchants, à coups de pied et à coups de poing. Mais il passa. À qui s'en prendre? C'était le faux esprit de Paris, calomniateur, sans indulgence, méprisant l'effort honnête, joyeux des déchéances, hostile au relèvement. N'importe, pensa-t-il, je l'épouserai. Et la joie de venger la chère petite, si vaillante, de l'imposer à ses drôles, lui réchauffait la poitrine. Le buffet, innovation de mode, était remplacé par de petites tables dispersées dans la salle à manger et dans le fumoir voisin, qu'on avait décoré en auberge normande. On s'asseyait ainsi en groupe sympathique, on hélait les maîtres d'hôtel comme au cabaret. C'est vraiment le dernier mot du goût mondain moderne. Les jeunes femmes, les jeunes filles pouvant s'attabler paisiblement en partie double, en partie carrée, jouer à ce jeu de cocotte dont elles raffolent sous l'œil indulgent des pères et des maris. Ainsi parlait Hector Le Tessier à Aaron, qui, de son œil rond de myope, cherchait Maude dans la foule bruyante des consommateurs sans l'apercevoir. « Vous n'avez pas vu Mademoiselle de Rouvre ? » demanda-t-il à l'estrange qui passait. « Je la cherche. Jacqueline, n'est-ce pas ?»« Non, pas Jacqueline, Maude. »« Oh, Maude !» repartit l'estrange. « Il faut être le gros monsieur calé que vous êtes pour la disputer à ces deux gardes du corps actuels. Les avez-vous observés ? Ils sont bien curieux à voir. » « Oui, dit Hector sérieusement, curieux à voir, mais j'ai peur du drame. » Le banquier, chipotant une marquise, se récria. « Du drame? Est-ce qu'on en voit dans le monde, aujourd'hui? Il n'y a plus de passion, il n'y a que des appétits. Il n'y a plus de jalousie, il n'y a que des dépits. » « Cette pensée est de vous, monsieur ? » demanda Hector très sérieusement. « Mais oui, fit le banquier qui flaira l'ironie. » Parmi les groupes, Madame Uccelli passait, secouant la paresse des buveurs. « Allons, zou, zou, à la salle, vite, vite ! Mademoiselle Ambre va chanter des chansons fin de siècle, celles qu'elle chantait chez la Duchesse. Vite, c'est admirable ! Elle commence, venez vite !» En effet, le piano résonnait de nouveau dans le hall. Chacun regagna sa place. Accompagnée par Madame Uccelli, la jeune chanteuse débita quelques-unes de ses fantaisies aux comiques Pince sans rire qui auront été, pendant 5 ans, le divertissement musical de Paris et qui, sans doute, surprenant nos successeurs par leur laborieuse ineptie. L'ami de la duchesse chantait, suivant la formule, droite et raide, sans un geste, sans qu'un muscle bougeât sur son masque, les lèvres mêmes remuant à peine. Comme il convenait, on applaudit. Madame Uccelli donna le signal. Mademoiselle Ambre ne salua pas, s'assit tranquillement, tandis que l'italienne criblait le clavier de variations brillantes. C'était l'entracte convenu. Maud et Jacqueline en profitèrent pour passer discrètement dans les rangs des chaises, appelant les jeunes filles qui se levèrent et les suivirent. « Qu'est-ce que ceci ? » demanda le docteur Cros à Madame de Reversier, sa voisine. « On fait sortir les demoiselles. Cela se fait couramment maintenant, dans le monde, quand on fait chanter à Bruhan ou à Félicia Mallet les morceaux corsés de leur répertoire. C'est bien plus convenable. »« En vérité, » murmura Cros. Il souriait en les regardant sortir, les chères petites détraquées, presque toutes ses clientes et ses confidentes. Leurs théories multicolores s'exilaient sous la conduite des deux filles de la maison. Quelques hommes, jeunes ou mûrs, professionnels avoués et tolérés du flirt virginal, les accompagnaient. L'Estrange, Hector Le Tessier, le peintre Valbel, qui glissait des impertinences dans les frisons noirs de Dora Calvel. L'exode fut salué de rires et d'applaudissements. Du seuil, avant de disparaître, Jacqueline cria « Et maintenant, racontez vos petites horreurs entre vous. Notre innocence est à l'abri. » Guidé par Maud, le troupeau rieur des robes de mousseline claire, flanqué des quatre ou cinq habits noirs, se réfugia dans le petit salon où, tout à l'heure, pendant la symphonie de Borodine, L'Estrange et Jacqueline s'étaient rejoints. Elles étaient une quinzaine, dont 10 jolies, les autres, à part une ou deux disgraciées, assez élégantes, assez provocantes pour gagner des courtisans. Et d'être là, enfermées avec des hommes qui, tant de soirs, leur avaient tenu des propos lestes, au bruit affaibli d'une musique libertine qu'elles connaissaient bien, cela surchauffait leur petit cerveau, cela leur donnait le désir de livrer plus d'elles-mêmes à ces hommes, leurs fidèles, qu'elles étaient fières d'enlever aux femmes mariées. Maud avait pris le bras de Jeanne de Chantel, que les lumières, la musique, un doigt de champagne aussi versé par Luc L'Estrange, grisaient un peu, et qui, malgré ce qui demeurait de touchante gaucherie à sa toilette provinciale, se faisait remarquer par sa jolie taille, le fardeau de ses cheveux bruns, sa peau blanche et ses grands yeux de sainte. Jeanne demanda simplement « Pourquoi ne veut-on pas que nous restions au salon? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Valbel attrapa la question au vol et répliqua « On va éteindre l'électricité. Les messieurs prendront les dames sur les genoux et les embrasseront comme il leur plaira. Cela se fait partout dans le monde, à Paris, mais il faut être mariée, mademoiselle. »« Il plaisante, mignonne, » dit Maud en baisant le front subitement rouge de l'enfant. « La vérité est qu'on ne donne plus de soirées musicales sans chansons en argot, et vraiment, il est moins gênant pour nous, les jeunes filles, d'être absentes. »« Mais ce n'est pas de l'argot du tout qu'on va chanter, » observa Juliette Avrezac, mécontente d'être séparée de Julien. « Cécile m'a dit le programme. Héloïse et Abélard, le fiacre, les stances de Ronsard. Je connais tout cela par cœur. »« Moi aussi, » avoua Marc de Reversier. Et les autres, Dora Calvel, Madeleine de Reversier, Jacqueline, déclarèrent aussi avec des éclats de rire. « Moi aussi, moi aussi. »« Moi, » dit une fillette très jeune, sœur de Madame Duclerc, « je connais le fiacre et les stances de Ronsard, mais mon frère n'a jamais voulu me chanter Héloïse et Abélard. Ça doit être drôle. »« Voulez-vous que je vous le chante, moi ?» demanda Jacqueline. « Oui, oui. Eh bien, écoutez. » Elle sauta sur le tabouret du piano et préluda avant que Maud, mécontente, eût pu la retenir. Elle détailla les couplets à double entente avec un imprévu talent de diseuse. Les hommes l'applaudissaient, plus troublés qu'ils ne voulaient le paraître, l'écume légère du désir, soulevée par le contraste de ses grivoiseries et de ses lèvres intactes qui les disaient, et de ses oreilles de jeunes filles qui les recueillaient. Elles aussi, les demi-vierges, secouées de rires qui sonnaient fêlés, se grisaient de cette mousse d'impudeur et s'appuyaient avec plus de langueur contre leurs cavaliers. Luc L'Estrange, l'œil fripé et luisant, s'était approché de Jeanne de Chantel. Il guettait l'effet de chaque allusion sur ce visage chaste et pensif. mais le même sourire de complaisance et d'incompréhension fleurissait sur les lèvres de l'enfant. « Le sale bonhomme !» pensa Hector qui les observait. Il apercevait pour la première fois, lui, sceptique indulgent aux vices de son temps et de son monde, l'odieux de ce rôle de déflorateur professionnel. Il apercevait aujourd'hui parce que la santé menacée par le fléau était celle d'une âme qui, mystérieusement, insensiblement, lui était devenue chère. Jacqueline, achevant le dernier refrain dans les acclamations, Lestrange demanda à Mademoiselle de Chantelle, en lui caressant les yeux de son regard, « Eh bien, mademoiselle, que pensez-vous de cette romance ?»« Mais, répliqua Jeanne avec la même naïveté distraite, c'est charmant. Jacqueline la chante très bien. » »« N'est-ce pas qu'on ne peut pas dire plus spirituellement des choses plus inconvenantes ?» Jeanne devint toute rose. Sans bien entendre ce qu'on lui voulait, elle devina le mauvais dessein, l'intention de mener sa pensée par des chemins interdits. Et cela lui donna le sentiment que la vraie jeune fille aura toujours devant les propos d'amour dont la tendresse est exclue, la peur. En même temps, elle eut honte de ses bras, de ce coin de gorge que les yeux de cet homme voyaient nu. Cette pudique nudité lui fit mal. D'instinct, elle chercha l'appui, le refuge. Mais en regardant autour d'elle, elle sut pour la première fois où elle était, qui l'entourait. Ces groupes de toilettes virginales et d'habits noirs, elle comprit ce qui s'y disait, elle surprit les frôlements à peine dissimulés. La révélation fut subite, foudroyante, le réveil de la Vierge chrétienne enivrée de pavots et ranimée dans une maison de Subure. Lestrange, mépris sur la nature de cet émoi, continuait de parler, la voix atténuée. Il abandonnait le sujet de la grivoiserie chantée, trop scabreux décidément pour l'ignorance de Jeanne. Avec quelques compliments de transition, il cherchait une fois de plus le morceau qu'il savait par cœur, l'ayant dit à tant d'autres et qu'il jugeait excellent, infaillible pour attaquer, sous des dehors d'admiration et d'amitié, les nerfs, la sensibilité physique d'une jeune fille. « Voyez, disait-il, cette cruauté des relations du monde à Paris. Nous nous rencontrons ce soir. Le hasard fait que nous causons amicalement, je puis m'imaginer un instant que vous appartenez à moi seul, si jolie, si fine. Je devine le délicieux être de tendresse que vous serez un jour, et nous nous quittons, peut-être pour ne plus nous revoir. Et c'est un autre qui aura ce trésor, ces beaux yeux-là se voileront pour un autre, il aura votre front, vos lèvres, et tout ce que je devine de vous par ce que je vois. « Monsieur !» murmura Jeanne. Elle sentait les regards de Lestrange la dévêtir, violer son corsage et sa robe. Elle allait défaillir et il continuait, grisé lui-même, prisonnier de son piège. « Cet homme ne sera pas moi, mais rien ne peut m'empêcher de rêver à vous. Je vous regarde et je vous garde et suis sûr de mon rêve qui, seul, va vous faire reparaître auprès de moi quand je voudrai. Toutes ces choses exquises de vous, absentes, seront à moi alors, et il n'y aura de vous rien de si mystérieux que je n'effleure. » Cette phrase-là, cette phrase frôleuse, à combien de jeunes filles ne l'avait-il pas débitée, sûre de les voir frémir comme d'une caresse? Mais cette fois, il n'eut pas le temps de l'achever. Hector Le Tessier, passant brusquement entre lui et Mademoiselle de Chantelle, coupa net la phrase. « Voulez-vous, mademoiselle, que je vous ramène auprès de Madame de Chantelle ?»« Oh oui, monsieur !» s'écria-t-elle avec un merci dans le regard. « Mais, mon cher Le Tessier, observa Lestrange. Hector le regarda en face. « Je suis à vous tout à l'heure, mon cher. » Cette scène se perdit dans le froufrou de la sortie joyeuse et bruyante des jeunes filles. Le concert était fini, on rangeait les chaises le long des murailles pour le bal, la foule refluait au buffet. Jeanne, trop émue pour parler, prit le bras d'Hector Le Tessier. Ils traversèrent les deux salons, atteignirent le hall. Maxime vint à eux. « Sais-tu où est maman ?» demanda la jeune fille. « Elle est dans la chambre de Madame de Rouvre. Elle se repose un peu. Veux-tu que je t'y conduise ?»« Monsieur Le Tessier va me conduire. » Dans le corridor, ils se trouvèrent seuls un instant. « Je vous remercie, monsieur, » dit Jeanne, levant ses larges yeux sur son compagnon. « Je vous rends votre liberté, je vous remercie de tout mon cœur. » Elle lui tendit sa main. Doucement, prête à céder si cette main s'est dérobée, Hector mit un léger baiser sur le bout du gant gris. La jeune fille avait disparu, qu'il était encore là, tout remué, des picotements au coin des yeux. Il se gourmandait. « Que je suis bête! Me voilà émue parce que j'ai garé de ce sale Lestrange une petite fille niaise et innocente. Car pour Blanche, cette petite oie est blanche. » Et quelque chose riait doucement et chantait en lui, malgré l'ironie des paroles. Puis, songeant à la courte scène de tout à l'heure avec Lestrange, il suspecta le comique de ce facile héroïsme de salon. « Une affaire, pour cette petite que je connais à peine et dont je me fiche radicalement, c'est trop coco tout de même. Mais cet animal-là me dégoûte. » Comme il rentrait dans le cabaret normand, il se trouva face à face avec Lestrange. Il lut la blague railleuse sur ce visage intelligent et sensuel. « Je suis à vos ordres, mon cher, » dit-il. « À mes ordres, » ricana Lestrange. « Un duel pour votre sortie de tout à l'heure ? Je pense que vous ne dites pas cela sérieusement. Je ne me trouve offensé en rien et n'ai pas envie d'être ridicule. J'ignorais absolument que Mademoiselle de Chantel et vous... »« Mademoiselle de Chantel ne m'est rien, » interrompit le Tessier. « Laissons-la tranquille. Du reste, vous avez raison. Je n'ai aucun motif de vous en vouloir personnellement. Je ne suis pas plus bégueule que vous, vous le savez, et je cote à son prix l'innocence de mes jeunes contemporaines. Cependant, justement, parce que c'est très rare quand on en trouve une tout à fait d'aplomb, on ne doit peut-être pas la faire chavirer. Ça vous est égal, je suppose, une de plus ou de moins. Vous en avez tant initié. Je me demande même comment ça vous amuse encore. » Ça m'amuse, pas tant que vous croyez, bien sûr, répliqua Lestrange brusquement assombri. Toutes ces gamines prétentieuses et névrosées, je n'y tiens pas plus qu'à une cigarette. Mais ce qu'il me faut, c'est les avoir eues, vous m'entendez, les avoir vues en état d'amour par mon fait, et puis, après, elles peuvent se livrer au premier venu, se marier, se faire nonnes ou filles, je m'en fiche. Cross appelle mon cas une névrosette, paraît-il. Le diminutif est de trop. Je vous assure que j'en souffre, en l'angoisse, comme les monomanes. Il y en a une qui s'en est aperçue, elle me tient, il faudra que je l'épouse. » Il n'y avait pas à douter, cet homme était sincère. Hector fut gagné par cet aveu singulier, imprévu, séduit par les cas amusants qu'il dévoilait. « Allons, fit-il, je ne vous en veux pas, mon cher. » Ils se serrèrent la main avec le pardon facile, le bon camaradisme indifférent que les Parisiens professent pour les vices des uns et des autres. « Un mot encore, cependant, objecta le Tessier, avec la détestable réputation que vous avez, car votre réputation est détestable, n'est-ce pas? Comment les mères vous permettent-elles de fréquenter leurs filles? Et comment les filles se laissent-elles prendre à vous, qui n'épousez guère, qui n'aimez pas, et elles le savent? Les mères seraient humiliées qu'un homme, courtisan avéré de toutes les jeunes filles, dédaignât leurs filles. Quant à nos chères petites demi-vierges, le mot est de vous, n'est-ce pas? Voici leur secret qui est fort simple. Donnez-leur 20 romans innocents et glissez dans le tas le portier des Chartreux. Vous pouvez être sûr qu'elles liront d'abord celui-là. Eh bien moi, je suis un mauvais livre, relié en drap et en batiste par Vaz et Charvet. Toutes veulent m'avoir lu. » L'attaque vivement rythmée d'une valse coupa leur entretien. Bousculés par un groupe joyeux qui laissait le cabaret pour le bal, ils rentrèrent dans le hall déblayé. Déjà, les mères se rangeaient le long des murailles. Madame de Rouvre et Madame de Chantel s'asseyaient tout au fond de l'immense salle, sous une tente faite de draperies et de plantes, sorte de salon isolé où la maîtresse de maison pouvait, à l'abri du frôlement des jupes et du piétinement des danseurs, recevoir comme à son jour, tout en jouissant du bal. Lestrange courut saisir la taille de Jacqueline, l'entraîna dans le tourbillon. On le voyait, tout en valsant, pencher ses moustaches rousses si près de la nuque rousse qu'on n'eût pu dire si le geste cachait une parole ou un baiser. Et on entendait au passage la fillette rire de la gorge comme une pigeonne. Valbel, infidèle à Dora Calvel, enlaçait Marthe de Réversier, pâle comme une vierge de cire. La longue robe blanche semblait seule effleurer le parquet, tant sa grâce de lys avait de svelte élan. La petite Madame Duclerc s'encastrait dans un corps à corps assez peu psychologique avec Henri Espien. Hector, à l'écart, appuyé contre le chambranle de la porte où se réfugiaient les non-danseurs, oubliant déjà l'accès de sa généreuse indignation de tout à l'heure, observait complaisamment cette envolée de couples, distrait des femmes, curieux surtout des décolletages pudiques, des robes aux couleurs tendres. Il les regardait se mouvoir dans leur grâce de 20 ans, ces petites camarades du monde, dont l'esprit naïf et pervers, dont la fraîcheur piquait l'amusée, piment le plus actif de son plaisir de mondain. Les voilà contentes, pensait-il. Pendant 2 heures, la musique a frotté leurs nerfs. Les clameurs amoureuses de la Uccelli, les romances sentimentales d'Étiennette, les grivoiseries de l'autre répercutées par Jacqueline, et surtout les propos à mi-voix, les regards lascifs des hommes, les ont bien entraînées. Elles sont à point, la gorge sèche, les yeux humides, le poignet fiévreux. La valse arrive à temps pour donner à leur cher petit sens une satisfaction bien méritée. Soyez contentes, mes mignonnes. Comment allez-vous, mon cher ami? Je vous cherche dans cette foule depuis 2 heures sans pouvoir vous retenir. C'était Maxime de Chantel. Hector lui serra la main en souriant. Êtes-vous bien sûr de m'avoir cherché? Moi, je vous ai aperçu plusieurs fois. J'aurais eu scrupule à vous déranger. Ah, mon ami, répliqua Maxime sans se justifier. Comme je suis heureux! Venez! Il entraîna. Le besoin de dire sa joie faisait déborder les mots de ses lèvres. « Je suis arrivé hier matin à Paris, dit-il, et comme vous pensez, dès les premières heures de l'après-midi, je me suis rendu avenue Kléber. Sans savoir pourquoi, j'étais horriblement inquiet, triste. Il me semblait que je n'étais plus rien pour elle, qu'elle allait me recevoir en étranger ou ne pas me recevoir du tout. Je vous assure qu'il a tenu à presque rien, que je n'entre pas, que je rebrousse chemin. » Entrasse et rebroussasse, pensa Hector, qui observait Maxime avec une pitié un peu jalouse. Mais la passion excuse tout. J'ai tout de même sonné. On m'a introduit. Mon cher, j'ai trouvé une mode nouvelle, transformée par la retraite qu'elle s'est imposée pendant mon absence, et si simple, si bonne. Elle m'a reçue, et cette chère Madame de Rouvre aussi, et même cette petite espiègle de Jacqueline, comme un enfant de la maison. On était en plein préparatif du bal, tout sans dessus dessous, chacun s'y occupait. On m'a mise à l'œuvre avec les autres, j'ai grimpé sur des échelles, j'ai enfoncé des clous, j'ai fait le tapissier. Ah, que j'étais heureux! Nous ne pouvions nous parler beaucoup, n'étant jamais seuls, mais chaque fois que je cherchais ses yeux, je les rencontrais tels que je les aime, des yeux que je sens pour moi, sérieux, doux, plus du tout ironiques. « La Circé, pensa Hector, elle m'a changé mon Chantel. De ce héros de roman, elle a fait un tapissier galant. C'est égal, je l'aimais mieux avant, avec sa jalousie féroce et ses tirades. » « Et tout haut ?»« Mais, fit-il, les graves questions, vous les avez abordées » « Qu'a-t-elle répondu ?»« Car, pour ce qui vous concerne, vous me paraissez décidé. » »« Ma vie lui appartient, elle en fera ce qu'elle voudra, jamais je n'aimerai qu'elle au monde. » Hier, elle s'est dérobée. Le moment était mal choisi, fit Hector en souriant, au milieu des employés de Bélois, grimpés sur une échelle et le marteau en main. Elle l'a pensé sans doute, elle a remis notre entretien à aujourd'hui, à maintenant. Mais elle a été telle avec moi depuis le commencement de la soirée que vraiment... Il s'interrompit. Dans le bruit même de l'orchestre, une sorte de vide silencieux se faisait, le froissement du parquet peu à peu se taisait. Hector et son ami regardèrent. Maud de Rouvre et Julien de Subersau venaient d'entrer dans le bal au milieu d'une valse et, en quelques instants, la curiosité, l'admiration que requéraient invinciblement ces deux êtres, surtout lorsqu'on les voyait ensemble, avaient élargi l'espace autour d'eux. Ils avaient comme balayé la foule et maintenant, presque seuls, dans le coin du hall voisin de l'orchestre, on les regardait valser. Hector observa Maxime. Celui-ci ne disait rien, mais ses joues devenaient subitement grises. « Le vrai Chantel n'est pas mort tout de même, » pensa le Tessier. « Il me plaît ainsi, rageur et jaloux. » La jalousie de Maxime s'expliquait d'elle-même, tant les deux valseurs semblaient faits l'un pour l'autre. On sentait qu'ils devaient s'aimer. Leur valse, pourtant, était correcte. Rien des embrassements suspects, des valses-caresses auxquelles s'abandonnaient tout à l'heure Jacqueline, Dora, Juliette Avrezac, les petites reversiers. Subersau et Maud dansaient, un peu à l'écart l'un de l'autre. Elle ne le touchait que par sa taille demi-appuyée sur le bras, par sa main effleurant la manche de l'habit, et les deux autres mains se frôlaient du bout des gants. Pourtant, la symétrie, l'harmonie de leurs gestes étaient si parfaites qu'ils semblaient rivés, rien que par ces légers contacts, comme ces couples ailés qu'on voit, aux fins d'été, voler unis, se touchant à peine, bercés ensemble au remous de l'air. Leurs lèvres paraissaient ne point bouger, et cependant, ils se parlaient. « Êtes-vous contente de moi ?» demandait Subverso avec un calme ironique. « Oh, je ne suis contente qu'à demi !»« J'ai observé la consigne, pourtant, je ne vous ai pas dérangé. »« Vous êtes un enfant boudeur, vous affectez de vous isoler. Croyez-vous qu'on ne le remarque pas ?»« Comment ? Je n'ai pas quitté la petite Avrezac. »« Elle ne vous a pas quitté, dites plutôt. Elle vous mangeait des yeux, pauvre petite. Elle et les autres femmes aussi, du reste. » La Houchelle y empâmait sur son estrade, car ce soir, vous êtes très bien. » Elle le caressa d'un regard d'amoureuse qui mit un léger voile de sang sur le masque pâle de Julien. Il la serra imperceptiblement contre lui à un tournant du salon. « Je vous adore, murmura-t-il. Vous avez ma vie, faites-en ce qui vous en plaira. » « Et moi, je t'aime, je te veux, répliqua-t-elle. Laisse-moi faire, ne sois pas jaloux. Chaque fois que tu seras tenté, pense à notre chambre de la rue de Berne. Mais prends garde, on nous voit. » À l'évocation, par cette bouche même qui lui versait l'énervement et l'oubli, de leurs plus poignantes caresses, il avait perdu une seconde la maîtrise de soi. Son bras avait serré la taille de Maud en amant. Ce fut une seconde, aussitôt il se contint. La valse expirait. « Ramène-moi à ma place, » fit Maud. « Nous nous verrons demain, à moins que la mère d'Étiennette soit plus gravement malade. D'ici là, songe à mes lèvres. » Ils arrêtèrent court leur tournoiement, pourtant sans brusquerie, auprès du salon de feuillage où trônaient les mères. Julien salua sa danseuse, qui répondit par une légère révérence. Personne, même Hector si avisé, même Maxime, que le lendemain, ce froid personnage et cette mondaine correcte venaient de se promettre. Maud demeura à peine quelques instants auprès de Madame de Rouvres. Tandis qu'un prélude de quadrille convoquait les couples, elle traversa, toute seule, le hall en diagonale et arriva devant Monsieur de Chantelle. « Voulez-vous me donner votre bras, monsieur ?» lui dit-elle, « et me mener jusqu'au salon des accessoires. J'ai besoin de vous. » Il hésita, mais il obéit, et sans répondre, offrit son bras. Ils s'éloignèrent, fendirent les groupes, gagnèrent le salon des accessoires, petite pièce voisine de la chambre de Jacqueline. Mais là, Maud dit à Maxime qui s'arrêtait, « Non, allons plus loin, j'ai à vous parler. » Elle le précéda, traversant un court corridor, puis une lingerie, jusqu'à sa propre chambre. C'était une vaste pièce d'angle à trois fenêtres, meublée de rares et admirables meubles laqués vert pâle, quelques grandes fleurs chimériques jetées çà et là sur les lisses surfaces. Maxime l'y suivit, le cœur étranglé par l'émotion. C'était la chapelle de l'idole, ce coin de maison. Le parfum personnel de Maud, si pénétrant, une odeur d'ambre et de fougère, mêlée à une autre essence inconnue qu'elle tenait secrète, s'y condensait avec l'émanation de ses cheveux et de sa peau. Là, elle s'habillait, elle se couchait, elle dormait. Il souffrit aussitôt d'un étrange vertige, comme un buveur plein de vin capiteux, que le grand air frappe au visage. L'attitude que sa jalousie de l'instant d'avant lui avait composée tomba. Maud dit simplement « Personne ne viendra nous déranger. Je ne consentirai jamais, comme maman et Jacqueline, à livrer l'intimité de mon appartement à des étrangers, même un soir de bal. » Ces mots, qui le mettaient si nettement à part dans la pensée de la jeune fille, achevèrent de panser le cœur de Maxime. Il s'assit, comme elle l'y invitait, sur une chaise longue couverte de coussins. Elle-même s'assit sur une chaise. Une tablette, chargée de 1000 objets de toilette féminine, les séparait. La lampe d'argent, avec un abat-jour d'argent, sans fanfreluche, mais d'un exquis travail d'orfèvrerie renaissance, posée sur un chiffonnier voisin du lit, éclairait un cercle étroit d'une clarté assez vive, laissant noyer de crépuscule le reste de la chambre. « Vous voyez que je vous tiens parole, » dit Maud. « Je vous avais promis un moment de causerie en tête-à-tête. Nous sommes tranquilles ici, et si j'ai tardé jusqu'à présent, ne croyez pas que ce soit par caprice. Je ne voulais pas vous parler des choses graves qui nous intéressent avant que nous nous fussions retrouvés dans le monde. » « Mais, » interrompit Maxime, « laissez-moi m'expliquer. Nous ne nous sommes pas beaucoup vus, mais comme je vous ai bien observé et que j'ai beaucoup pensé à vous, il me semble que je vous connais bien. Vous croyez m'aimer ? Oh, Maud ! Ma phrase ne vous convient pas, je la change. Vous m'aimez à votre façon, c'est-à-dire avec un fond de rancune contre moi et contre le penchant qui vous porte vers moi. Ne dites pas non, il vous suffit que vous m'aperceviez mêlé au monde pour que cette rancune se réveille. Tout à l'heure, parce que je dansais avec un ami d'enfance, vous avez douté de moi une fois de plus. » Elle posa un instant sur ce reproche qui fit baisser la tête à Maxime. Il s'apparut comme un coupable indigne de pardon et combien la contrition lui fut douce. « Vous doutez de moi parce que je valse avec un de nos invités le soir d'un bal chez moi et vous n'avez encore aucun droit sur moi. Si je vous en donne, comment en userez-vous ? Comprenez-vous pourquoi j'hésite à vous choisir pour maître ?» Maxime répondit à voix basse « Je vous aime si fort que vous n'en avez même pas l'idée, mais j'ai horreur du monde que je vois autour de vous. » « Le monde où je vis, vous savez bien que je le prise ce qu'il vaut. Mais nous ne sommes pas ici dans une terre seigneuriale du Poitou, nous sommes à Paris, où je ne puis voir que le monde de Paris. Est-ce ma faute, je vous le demande, si ce monde est mêlé et si le mélange est trouble ? Certes, une fois mariée, ma façon de vivre dépendra de l'homme que j'épouserai, comme elle dépend aujourd'hui de ma famille. Mais je ne veux pas que cet homme pense se risquer ou déchoir en m'épousant. » Que voulez-vous ? C'est peut-être de l'orgueil fou et déplacé. Je veux être épousée les yeux fermés. Il me semble que je vaux cela. » Elle s'était levée sur ces derniers mots que la brûlure de son amour-propre, tant de fois corrodée par le doute ironique du monde, faisait sincère. Maxime la vit si hautaine qu'il s'aperçut que, peut-être, il allait la perdre et l'effroyable éclair de désespoir qui traversa son cœur à cette pensée lui montra combien elle lui était nécessaire. Il se leva à son tour, il balbutia « Mais je n'ai jamais dit, jamais pensé rien de pareil. Je vous respecte et je crois en vous. Je vous supplie humblement de ne pas me repousser. » « Encore un mot, » interrompit Maud sans atténuer la sévérité triste de son regard. « Je vous disais tout à l'heure, ma vie de femme dépendra de mon mari. Donc, si mon mari m'impose de vivre loin du monde, j'obéirai. » Seulement, je ne sais pas si, loin du monde, je serai heureuse. J'ai le goût d'un certain décor d'élégance, d'un certain milieu d'art et d'esprit. Il me semble que cela n'existe guère hors de Paris. Si l'on m'éloigne de Paris pour toujours, je serai peut-être dépaysée, comme nos oiseaux des colonies qui dépérissent ici. Je ne serai peut-être point heureuse, et vous le savez, si l'un souffre, l'autre souffre aussi. Réfléchissez bien à tout cela, mon ami, ajouta-t-elle en adoucissant lentement sa voix. Et elle laissa prendre ses mains par Maxime, qui se pencha dessus, n'osant la regarder. D'une voix si passionnée qu'elle en sentit frémir les échos dans son cœur, « Je suis à vous, murmura-t-il, sans condition et comme vous voudrez. Je suis votre esclave, votre chose. Si vous refusez d'être ma femme, oh, dites-le-moi maintenant. Je n'ai plus de force pour l'incertitude. » Si vous me repoussez, je crois que je mourrai, mais je mourrai sur le coup. Cette mort lente de l'incertitude est épouvantable. » Il avait glissé à ses pieds un genou sur le tapis. Elle lui laissait ses mains, qu'il appuyait contre son visage, mais elle ne le relevait pas. « Je vous en prie, je vous en prie !» Elle répondit « Je vous demande une foi absolue en moi, telle que vous l'avez en votre mère ou en votre sœur. » Il répéta les mêmes mots. « J'ai foi en vous, comme en ma mère ou en ma sœur. » Alors Maud le releva lentement. Il n'osait la regarder, lire l'arrêt dans ses yeux. Elle demanda « Votre mère et votre sœur, leur avez-vous parlé d'un mariage possible avec moi ? Qu'en pensent-elles ? » « Ma mère et Jeanne sont des êtres si simples que vous leur en imposez un peu. » Peut-être elle s'effraie de voir épris de vous un campagnard tel que moi. Je le suppose, car elles ne m'ont pas questionné et je ne leur ai pas dit mes projets. Mais toutes deux, je vous le jure, vous respectent comme elles le doivent et elles aimeront la femme que je me choisis. » Alors, dit Maud simplement, que Madame de Chantel vienne demain demander pour vous ma main à ma mère. Moi, je vous la donne. Comme Maxime restait muet et immobile devant elle, sous le choc de ce brusque bonheur, elle tendit lentement, gravement, son front. Dès qu'il eut touché de ses lèvres, il retrouva la force de serrer la jeune fille contre soi en lui balbutiant des mots de tendresse. Cette fois, il ne la sentit point se dérober, se raidir sous son étreinte, car Maud, d'un effort surhumain, maîtrisait ses nerfs, domptait ses sens, enragée de leur rébellion intime pour ce seul baiser de fiançailles, épouvantée du partage entrevu dans l'avenir, mais résolue pourtant. Ils regagnèrent le hall, le vert réduit où s'étaient maintenant réunis tous les intimes de la maison. Madame de Chantelle était assise à côté de Madame de Rouvre, les deux le tessier causaient avec Étiennette. Hector, au visage de Maud et de Maxime, comprit ce qui venait de se passer. Il aima Maud pour le triomphe qu'elle venait de remporter, il envia Maxime pour sa défaite. Être le mari de cette femme unique, pensa-t-il, cela ne vaut-il pas des années de jalousie, des mois d'angoisse et le coup de pistolet final? Heureux les aveugles et les fous. Maxime s'approcha de Jeanne, la baisa sur la joue. À cette effusion, elle aussi comprit tout. Hector vit monter à ses yeux des larmes aussitôt refoulées. Paul, lui, ne vit rien, il regardait Étiennette, il jouissait longuement de cette sorte de printemps que l'homme sent refleurir en lui, non sans surprise, la quarantaine passée, lorsque l'amour le reprend à l'improviste. « Gros bêta !» pensa Hector, avec l'affectueuse ironie de leur fraternité. Le voilà, à son âge, aussi toqué que ce soldat laboureur. Au fond, il l'enviait aussi. « Décidément, il n'y a que moi pour résister, se dit-il, résolu à ne pas se regarder de trop près, à ne pas sentir la vapeur d'attendrissement, d'un languissement sentimental qui montait en lui au spectacle de ses tendresses, si étrangement éclose en ce milieu de fête. » L'heure s'avançait, le bal ralenti faisait trêve. C'était le repos qui précède le cotillon. Jacqueline et Suberceau, qui devaient le conduire, surveillaient l'arrangement des chaises. « Regardez, dit Hector à Maxime, excellente occasion pour mesurer l'innocence des jeunes filles. Quelques-unes vont s'asseoir dans des coins inaccessibles avec leurs danseurs. Dora Calvel, la sœur de Madame Duclerc, les petites reversiers. Pour celles-là, le cotillon n'est qu'un prétexte à isolement et à flirt. Celles qui, bravement, au contraire, se campent au premier rang et défendent leur place, sont de bonnes petites filles, avides de trémoussement et de transpiration. » Vite, il faut les épouser avant qu'elles ne cherchent les petits coins, car tôt ou tard, elles finissent par là. Chantelle souriait, l'esprit absent. À ce moment, Joseph, le valet de chambre, traversa le hall et, s'approchant de Maud, lui murmura quelques mots à l'oreille. Quand il eut achevé, Maud lui demanda tout haut « Il y a des voitures en bas ? Faites-m'en avancer une !» À son tour, elle courut parler à l'oreille d'Étiennette, qui devint toute pâle. Elles sortirent aussitôt. Paul de Tessier suivit les deux jeunes filles. Ce manège, inaperçu des autres invités, avait suspendu les conversations autour de Madame de Rouvre. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda celle-ci à Jeanne de Chantelle. « Vous avez entendu ?»« Non, madame, il m'a semblé qu'il était question de la mère de cette jeune fille. » Quand Mademoiselle Maud lui a parlé tout bas, elle a dit « Ah, mon Dieu, maman !» !»« Ce sont de mauvaises nouvelles, dit Hector. La pauvre femme est condamnée. » Maud rentrait, on la questionna. « Oui, c'est sa mère. Elle est au plus mal. Une voisine est venue chercher Étiennette. »« Oh !» s'écria Jeanne de Chantelle. « Sa mère ? Mais c'est horrible, au milieu d'un bal. Et cette pauvre jeune fille s'en va toute seule. Si nous allions avec elle !» « Étiennette n'est pas seule à soigner sa mère, » répondit Maud. « Il y a une domestique, une sœur de charité, et cette voisine, précisément, qui est venue la chercher. Nous ne servirons à rien. Elle n'a même pas voulu de M. Paul de Tessier. » Julien de Suberceau reparaissait avec Jacqueline, un flot de rubans à la boutonnière, frappant la peau, fouettant les grelots du tambourin. L'orchestre attaqua la valse d'une opérette à la mode. À la suite de Julien et de Jacqueline, les premiers couples choisis se mirent à tourbillonner. Comme Julien passait près d'elle, Maud se leva, le retint. Elle dit à demi-voix, mais de façon à être entendue de Maxime, « Ne nous donnez pas d'accessoires, nous ne voulons pas danser, monsieur de Chantelle et moi. » Plus bas, de cette voisine articulée, lèvres immobiles, dont ils usaient pour se parler devant le monde, elle ajouta, « La mère d'Étiennette se meurt. » « Impossible chez elle. J'irai rue de la Baume demain matin. Il faut que je te voie. » Des yeux, Julien acquiesça. Maud se rassit près de Maxime, qui lui jeta un regard de remerciement pour lui avoir sacrifié le plaisir du bal.